Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 687 du podcast Touch en Actu. La Mathie, très heureux de vous retrouver pour la suite de nos aventures footballistiques. À mes côtés, Grégory Richard est là. Bonjour Grégory.
Bonjour messieurs et bonjour à tous.
De retour après une semaine de commentaires, ça a été?
Bon, ma foi, c'est bien, hein. On s'est assez bien amusé au cours de ce week-end, je crois, avec Lucas. Donc,
il est aussi sympa qu'il en a l'air à la télé, Lucas Vola.
Ah, je crains les représailles, on a encore commenté ensemble, donc je vais garder un petit peu l'ombre autour de cette affirmation.
Très bien.
Bien entendu, Lucas Vola est un amour et je le félicite de nouveau pour ses prestations et surtout pour les allers-retours qu'il fait, puisque pour ceux qui ne le savent pas, il vient quand même chaque week-end de Toulon, il fait l'aller-retour en à peine 24 heures. Donc,
c'est vrai qu'il a un peu de voyage. Je pensais avoir du chemin, mais il en a un peu plus en effet. Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël.
Salut messieurs.
Toujours fidèle au poste depuis hier, c'est à notre tour, on parle d'M6, on l'a déjà dit hier, c'est à notre tour la semaine prochaine. Toujours bien depuis hier, Raphaël?
Bon écoute, oui.
Oui, ça va.
Non, mais tout à fait.
Tranquille, bon. Les Packers qui reviennent en forme, la course au playoff NFC qui s'intensifie et des Dolphins en démonstration, c'est le programme de cette 13e semaine de NFL. Je gagne un peu de temps parce que je cherche mon jingle et c'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence sans plus tarder, messieurs, avec le match entre les Packers et les Chiefs. Packers 27, Chiefs 19, 3 à la suite pour les Packers. Après les Lions à Thanksgiving, ce sont les Chiefs qui tombent à Green Bay. 4 victoires sur les 5 derniers matchs pour les Packers. C'était le match dans la nuit de samedi à dimanche avec un excellent Jordan Love en prime time. 25 sur 36, 267 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Grégory, il s'est plutôt affirmé, Jordan Love, encore sur ce match.
Oui, il continue de le faire. C'est vrai que depuis notamment la victoire face aux Chargers, on sent que c'est vraiment une équipe des Green Bay Packers avec un autre visage. Il y a vraiment eu des automatismes qui ont été peaufinés pendant la semaine de repos du mois de novembre. C'est assez indéniable vu ce qu'on voit ces dernières semaines, notamment offensivement. On savait que la défense avait quand même de bons attributs, mais c'est vrai qu'en attaque, pour l'instant, ça patinait un peu dans le domaine aérien et c'était nécessaire de s'améliorer dans ce domaine-là vu les cascades de blessures qu'on rencontrait au niveau du jeu au sol. Et ben manifestement, c'est ce qu'on voit. On a une alternance qui est beaucoup plus notable et une équipe de Green Bay notamment qui arrive à faire mouche, à concrétiser enfin ses drives et à poser des problèmes à des gros cadors, parce que Détroit et Kansas City, c'est quand même pas les premiers venus et il y a quand même 9 chances sur 10, on va dire, pour qu'on les retrouve au mois de janvier.
Raphaël, convaincu aussi par Jordan Love sur ce match, bonne entente avec Christian Watson et ses jeunes cibles, notamment ça prend forme, on dirait, offensivement.
Oui, difficile de ne pas être convaincu vu la prestation du quarterback. C'était un match vraiment en rythme. Il y a enfin cette alchimie avec ces jeunes receveurs, ces jeunes coéquipiers ils avaient eu du mal à la trouver en début de saison, comme Greg l'a évoqué. Donc c'est propre, c'est en progrès, c'est peut-être finalement en vrai à l'image d'un jeune quarterback qui certes ça fait plusieurs années qu'il est dans la ligue, mais réellement il n'en est qu'à une dizaine de matchs, on va dire, au centre du terrain, on va dire ça comme ça. Donc après tout, lui aussi a une phase de progression à passer et qu'il est en train de réussir. Donc c'est à mettre au mérite de Love, de la Fleur également, je pense, qui a forcément sa part de responsabilité là-dedans. Donc voilà, non, c'était très convaincant, effectivement.
Tu parles de Matt LaFleur, en effet, très bonne entame de match, notamment de Green Bay, qui a marqué sur ses deux premières possessions. Ils ont à nouveau marqué avec un bon drive dans le troisième quart-temps quand Kansas City s'est rapproché, et puis la défense a fini le boulot. Bonne entame égale bon coaching, Greg, en général. On dit souvent que c'est très scripté, les débuts de match.
Bah, en fait, ce qui est assez rassurant, notamment de par la jeunesse de l'effectif, c'est qu'en effet, ça fait deux semaines de suite, hein, si on reprend là encore le match face à Détroit, que globalement, on prend les devants assez rapidement, puisqu'il y avait 20-3 ou 23-6 plutôt, assez vite en faveur de Green Bay du côté du Michigan. Là, en effet, il y a 14-6 à la mi-temps, et c'est vrai que non seulement je trouve qu'il y a des adaptations qui ont été effectuées de la part de Matt LaFleur, mais les ajustements qu'on pourrait craindre à la pause pour l'adversaire sont pas forcément ultra dommageables pour Green Bay, parce que là certes ils concèdent un touchdown dès le début de la deuxième mi-temps, mais il y a également une défense qui est un peu moins en tout cas qui montre un peu plus l'écrou dans la dernière ligne droite de cette partie. Il y a l'interception qui intervient relativement tard également, il y a une attaque qui arrive à compléter les jeux qu'il faut compléter sur les moments un petit peu clutch. Donc globalement c'est pas une équipe qui s'effondre, alors que encore une fois on pourrait craindre, justement, de par l'inexpérience globale, voilà, le manque peut-être de communication, même si on est à domicile, c'est pas quelque chose où ils perdent les pédales, que ce soit à domicile ou en déplacement. Donc c'est là aussi où je trouve le coaching a une part non négligeable dans le succès actuel des Packers et leur bonne série.
La défense a souffert au sol, mais la suite décisive, c'est suffisant, Raphaël, pour l'instant en défense. Il y a une grosse marge de progression, évidemment, mais c'est suffisant quand l'attaque marche comme ça.
Oui, c'est suffisant, comme tu dis. Il y a ces actions clutch, notamment des sacs, hein, sur troisième tentative, qui permettent à chaque fois un peu de casser finalement l'avancée des Chiefs et de les forcer à plutôt prendre des field goals que tenter d'aller un peu plus loin. Donc ça a pas mal ralenti le coup. Donc entre une solidité claire nette en première mi-temps et après en deuxième moins solide mais avec quelques coups d'éclat, ça, le tout dans le tout fait que cette défense conduite par le coordinateur Joe Barry arrive à s'en sortir. C'est comme tu dis, c'est pas encore incroyable, c'est pas une top défense de la ligue, mais c'est en progrès même par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de saison. Donc globalement c'est une équipe qui va de mieux en mieux et ça correspond finalement à une équipe qui est en train d'être numéro 7 en NFC. Et qui donc s'accroche aux playoffs.
Ils sont clairement revenus dans la course aux playoffs avec cette série de bons résultats et de victoires, parce que c'est vrai qu'ils en avaient l'air loin à un moment, et puis finalement c'est revenu très très fort pour cette équipe. En face, les Chiefs ont encore eu du mal en attaque, même s'ils ont eu du jeu au sol. Hein. Pour une fois, il y a 148 yards, dont 110 d'Azaïa Pacheco. Est-ce que Patrick Mahomes a été bon? Parce que j'ai vu dans la rédaction, je voyais que c'était partagé sur Slack. Patrick Mahomes a 21 sur 33, 210 yards, un touchdown, une interception. Grégory, est-ce que tu l'as trouvé bon?
Bah, par rapport à ses standards habituels, on peut pas dire que ce soit le cas. Après, il y a des raisons qui sont multiples. On parlait du coaching du côté de Green Bay. Je sais pas si le coaching des Chiefs a globalement rendu service à Patrick Mahomes. Il y a toujours cette difficulté à trouver du rythme. Il y a une ligne offensive qui malheureusement l'a un peu trop abandonné par séquence. Il y a des choix de jeu dans le domaine aérien. Alors, sortie de Travis Kelce, qui on le sait est la valeur sûre et qui a quand même réussi à être alerté sur pas mal de séquences, derrière je trouve qu'on a encore un petit peu de mal à confirmer la confiance à Rashi Rice, alors que dans le même temps Valdez-Scantling continue très clairement de décevoir. Donc malheureusement, c'est ces éléments qui entachent un petit peu la progression aérienne des Chiefs, qui a tendance un petit peu à casser le rythme. Et on se retrouve avec un Patrick Mahomes qui fait un match assez lambda, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il peut faire mieux. Après, Raph l'a dit tout à l'heure, voilà, il y a eu une pression très très bien ajustée sur des moments clés. On était clairement côté de la défense des Packers sur du plié sans rompre. Et même s'il y a eu une forme de progression où on se dit bah c'est, ça reste Patrick Mahomes qui fait avancer les chaînes, bah in fine, quand faut conclure, bah c'est pas forcément le Patrick Mahomes habituel. Donc on va pas s'alarmer plus que ça parce qu'on sait de quoi il est capable, mais il faudra pas que il soit, on va dire que l'attaque des Chiefs soit trop dépendante à Patrick Mahomes comme on a pu voir sur certaines séquences par le passé.
Raphaël, on cherche toujours un petit peu en effet autour de Travis Kelce. Il y a Rashee Rice qui a 8 réceptions, mais on a l'impression qu'il y a pas beaucoup de changements en même temps dans la physionomie de cette équipe, quoi.
Non, il y a pas beaucoup de changements, mais c'est pas non plus totalement surprenant. Enfin, je veux dire, c'est quand même un système offensif implanté par Andy Reid depuis un moment avec Patrick Mahomes. Ils ont essayé de le changer l'an dernier en faisant partir Tyreek Hill, en modifiant un peu les choses. L'an dernier, ça a fonctionné. Cette année, ça fonctionne moins, je pense, encore une fois, parce que Travis Kelce est beaucoup moins dominant que par le passé. Oui, il y a encore des réceptions, mais il est beaucoup moins performant sur les yards après contact. Il est beaucoup moins performant sur la capacité à obtenir des first downs, à être une menace dans la zone rouge. Et le tout dans le tout fait que Kansas City a plus vraiment ce receveur numéro 1, en tout cas cible numéro 1 ultime, et ça complique les choses. Voilà, et je pour le coup, moi, je trouve Mahomes un peu moins bon quand même cette saison. Il a des circonstances atténuantes, mais malgré tout, il est un peu moins bon, ce qui peut aussi s'entendre, hein. Tous les quarterbacks peuvent pas être en permanence, faire que 15-16 saisons stratosphériques. Il y a des moments où c'est un peu moins bon, et je pense que cette année, c'est le cas. Et jusque-là, la défense comblait ça, et depuis 2 semaines, on a une défense de Kansas City peut-être un peu, pas mauvaise, hein, n'exagérons pas, mais un peu moins forte. Là, ils autorisent de mémoire, un peu plus de 6 yards par action, c'est beaucoup. Et donc voilà, la défense comble peut-être plus assez les déboires de l'attaque, et donc ça devient un peu plus compliqué.
Et en fait, il y a aussi ça, il y a la défense. 3 défaites en 5 matchs, est-ce que c'est inquiétant pour toi, Raphaël ? Ils sont à 8-4 maintenant. Ils avaient le meilleur bilan de l'AFC, ils l'ont plus.
Inquiétant, non, parce qu'ils iront en play-off, je pense. Ils vont prendre cette division et donc se qualifier en play-off. Et donc là-dessus, pas d'inquiétude. Après, ça va leur faire tout bizarre de probablement ne pas avoir le siège numéro 1 ni le 2 et de devoir aller beaucoup à l'extérieur. Ça risque de changer un peu la donne. Je dirais que leur chance, malgré tout, c'est d'avoir quand même un quarterback talentueux, un coaching expérimenté. Une AFC qui se cherche un vrai favori. Donc demain, est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui leur semble vraiment supérieure en AFC? Bon, je sais pas.
Ça va être, en tout cas, c'est une course passionnante, hein, on l'avait un peu évoqué hier, mais il y a les Ravens et les Dolphins juste au-dessus, il y a du monde derrière, ça va être serré jusqu'au bout. Grégory, un petit mot pour terminer là-dessus, est-ce que toi t'es inquiet pour les Chiefs?
Alors inquiet, non, parce que Raph l'a bien dit, en effet, il y a le titre de division quand même qui paraît plus qu'abordable. Maintenant, il y a cette réception des Bills lors du week-end d'avenir, je ne vais pas empiéter sur la preview. Mais en parlant de match qui va sentir un peu le soufre, entre une équipe de Buffalo qui est clairement dos au mur depuis plusieurs semaines et cette équipe des Chiefs qui ne peut pas se permettre de perdre face à un potentiel concurrent direct pour les playoffs, parce que là, à 8-5, ça devient quand même très très compliqué pour être ne serait-ce que dans les 3 premiers de la conf. Ça va être un match à surveiller de très très près encore plus.
Entre Chiefs, Bills et Eagles, Cowboys, il y a du très très lourd.
Les Bills qui sortent de bye week en plus, hein, pour le rappel.
Ça va être très très costaud. On passe aux Rams 36, Browns 19. Les Packers sont 7e en NFC et derrière eux, il y a les Rams. Match serré jusqu'au 4e quart-temps. Finalement, Cooper Kupp et Kyren Williams ont marqué pour creuser l'écart décisif. Victoire de l'attaque des Rams sur la bonne défense des Browns. C'est quand même une grosse info, Raphaël. C'était un vrai test pour cette attaque de Los Angeles et ils l'ont plutôt réussi.
Ouais, ils l'ont réussi d'abord grâce au jeu aérien, hein, dans un premier temps. C'est vraiment, je trouve, Stafford et notamment Pukanakwa qui ont réussi à déstabiliser cette défense de Cleveland. Et après, ils ont su enchaîner avec le sol en fin de match pour reprendre, conserver l'avantage, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est une belle prestation offensive de la part des hommes de Sean McVay. Après, c'est aussi un peu la défense de Cleveland qui rentre peut-être un peu dans le rang après un début de saison un peu stratosphérique, on va dire ça comme ça. Là, on a senti un Myles Garrett plus en difficulté, à mon avis peut-être un peu gêné de son pépin physique de la semaine dernière.
Oui, il est blessé à l'épaule.
Et quand le pass rusher numéro 1, la pierre angulaire du système, est peut-être un peu moins fort, bah tout le monde derrière voit son niveau un peu baisser en termes d'homogénéité. Donc bon,
Du côté en effet de Miles Garrett, il y a une blessure à l'épaule et Denzel Ward était absent, c'était ça que je voulais ajouter. Grégory, je te voyais opiner. Sean McVay quand même fait un très bon match, aucun sac encaissé pour Matthew Stafford, Pukanakua encore productif, Williams toujours précieux. Sean McVay fait quand même du très gros boulot.
Alors là aussi, à l'instar des Packers, hein, c'est les deux équipes un peu hautes dans la NFC et c'est aussi deux équipes qui ont profité de la semaine de repos, hein, sans vouloir insister lourdement. Et je trouve que c'est une équipe qui s'est vraiment développée dans les tranchées. Parce que c'est sûr que forcément, du côté de Los Angeles, on est habitué ces dernières années à avoir vraiment les playmakers. Et je rejoins globalement tout ce qu'a dit Raph et ce que tu as résumé également à l'instant. Mais c'est vrai que la ligne offensive, globalement, même avec un Miles Garrett un peu plus diminué, qui en effet peut avoir tendance à niveler un peu le rendement global de cette défense des Browns, on a quand même une ligne offensive qui a laissé du temps à Matthew Stafford pour trouver ses cibles. Et de l'autre côté, bah, Aaron Donald n'est plus seul. On a beaucoup de joueurs qui arrivent à générer de la pression. Kobe Turner, notamment, avec ce sac importantissime, dans le quatrième quart pour Los Angeles. Donc voilà, cette équipe de Los Angeles, elle est peut-être pas complète partout. Mais en tout cas, je trouve que au niveau des lignes, vraiment, c'est une équipe qui commence à être dure à aller chercher. Et pour preuve, notamment en défense, pour insister là-dessus, depuis la semaine de repos, ils ont toujours pris moins de 20 points au tableau d'affichage. Donc quand tu as une attaque qui peut tourner à ce rythme-là, avec en plus un jeu au sol qui devient plus performant, bah, c'est de nombreux arguments qui peuvent faire des Rams un adversaire très dangereux dans la dernière ligne droite.
Sur les 4 derniers matchs, ils ont pris 20 points maximum. Donc c'est vrai qu'ils sont en forme aussi en défense. C'est donc de ce côté-là aussi que ça tourne. Et en phase 2, il y avait donc Joe Flacco. 23 sur 44, 254 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Finalement, c'était quand même une étonnamment bonne surprise, Raphaël, parce qu'il a été loin d'être ridicule. Hein.
Clairement. Moi, j'avoue que ça a été vraiment une de mes surprises du week-end. Je m'attendais à un match très très compliqué pour Flacco. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a pu voir et la situation dans laquelle étaient les Browns, quand ils ont enchaîné Dorian Thompson et ils ont même essayé une fois, c'était.
PJ Walker,
c'est ça. Bon, bah, clairement, avec Flacco, ça avançait plus. Hein. Il s'est même retrouvé, je trouve, un peu en difficulté au moment où ils ont perdu Amari Cooper. Donc, c'est même pas vraiment de sa faute. Hein. Quand ils perdent Amari Cooper, ils ont une cible en moins.
Oui. Ouais. Il y a eu commotion, si je dis pas de
ouais, ça. Ouais, c'est sa commotion. Oui. Non, écoute, compte tenu des circonstances, c'est sûr que le jeu aérien de Cleveland a été presque une bonne surprise. Alors, c'était pas suffisant pour remporter ce match. Il a peut-être manqué aussi d'une équipe de Cleveland capable d'imposer son jeu au sol comme ils peuvent le faire par moment. C'est peut-être ça qui a manqué finalement. Mais bon, Cleveland enchaîne tellement des blessures sur la ligne. Et puis bon, on parle même plus de Nick Chubb qui est plus là depuis maintenant que plusieurs semaines. Mais c'était presque encourageant. J'ai trouvé qu'en fait c'était une défaite presque encourageante dans le sens où encore une fois dans une AFC avec une course au play-off serrée, tu dis que si l'attaque arrive à maintenir ce niveau-là en faisant peut-être un peu mieux, si la défense reste solide, ils peuvent aller arracher quelques victoires d'ici la fin de saison pour rester accrochés aux playoffs.
C'était ma question suivante, Grégory, en effet. Est-ce qu'ils sont toujours dans la course aux playoffs avec Joe Flacco? Son interception, alors qu'ils sont menés d'un point dans le quatrième quart, fait très mal hein, dans le scénario du match. Mais avant ça, en effet, il avait été plutôt solide.
Bah, c'est pour ça que moi, je reste un petit peu sur ma faim parce que je vais toujours revenir à cet élément-là, mais moi, ça me fascine toujours quand on a un quarterback qui est signé au dernier moment et à qui tu fais lancer deux fois plus de ballons que ton jeu au sol qui est normalement censé être ton régulateur offensif, on va dire. Donc après, c'est sûr que c'est à moitié vrai parce que vous l'avez dit, la prestation globale de Joe Flacco est pas infamante, mais c'est quand même terrible de se dire que tu lui mets une pression peut-être trop excessive sur 4 cartons pour faire de cette équipe des Browns qu'il a intégré depuis peu un potentiel vainqueur du côté de Los Angeles. Donc j'entends les arguments de Raph. C'est vrai que bon, malheureusement cette ligne a des soucis et on n'a pas non plus un backfield offensif hyper détonnant depuis la blessure de Nick Chubb, mais je pense qu'il y avait moyen, vu le scénario du match et le fait qu'ils sont restés au contact pendant un petit moment, de tenter d'établir un peu plus justement ce jeu à la course, parce qu'à terme c'est devenu un peu trop prévisible à mon sens du côté de cette attaque de Cleveland, et ça a grandement facilité la tâche du pass rush des Rams qui est monté en puissance au fur et à mesure et qui pour le coup a été décisif dans le moment qu'il fallait. Donc voilà, pas une mauvaise prestation de Joe Flacco, mais je trouve que l'inspiration du coordinateur offensif est un peu contestable.
En tout cas, 7 victoires, 5 défaites. Ils sont toujours vivants et ils seront toujours là. Ça dépendra aussi du niveau de la défense. Il faudra voir comment Myles Garrett évolue, parce que si c'est sérieux et qu'il empire sa blessure, par exemple, ça pourrait quand même compliquer grandement les choses. Saints 28, Lions 33. Les Lions menaient 21-0 dans le premier quart-temps. Lucas Vola et Grégory Richard devaient se dire « Mon Dieu, on va commenter un match qui va tourner au carnage. » Ça avait l'air d'un match facile. Et puis voilà que les Saints sont revenus à 3 points dans le troisième quart. New Orleans s'est remis à patauger ensuite. Les Lions ont fini par tenir leur avantage. On précise que dans le processus, Derek Carr s'est blessé, c'est Jameis Winston qui a terminé le match. Greg, tu le commentais, comment les Lions ont fait pour autant se compliquer la tâche?
Je pense un excès de gestion à un moment donné. Après, je pense qu'il fallait bien que les Saints finissent par se rebeller aussi, puisqu'en effet, il y a 21-0 dans le premier quart, mais il y a 21-0 après à peine 7 minutes de jeu, donc ça a vraiment été très 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 vite, et je pense qu'il y avait clairement une réaction qui était nécessaire pour les Saints, qui commençaient à se faire huer, Derek Carr en tête, dans un début de match extrêmement poussif. Donc je pense qu'on a quand même sonné un petit peu la charge du côté de la Nouvelle-Orléans. Et puis de l'autre côté, en effet, Détroit a peut-être été un petit peu plus conservateur, notamment offensivement, avec un Jared Goff qui a été moins précis au niveau de ses transmissions de balles. Et en effet, dès qu'on a voulu un tant soit peu accélérer du côté de Détroit, même si ça a été aidé par des pertes de balles dommageables du côté de New Orleans, on a été capable de le faire du côté des Lions. Donc c'est pas un succès immérité. Mais oui, c'est vrai que voilà, dans la lignée de ce qu'on avait vu contre Green Bay, il y a eu un petit phénomène montagne russe. On a quand même soufflé pas mal le chaud et le froid sur cette partie. Ouais.
Raphaël, toi, d'un point de vue qui n'était pas devant le match en permanence, mais qui a rattrapé derrière, faut quand même donner du crédit à Jared Goff. Il réussit des grosses passes en fin de match pour faire tourner le chrono. Il y a Sam Laporta, le rookie, qui a 140 yards. C'est la révélation de ce match. Hein. Ça commence quand même à faire beaucoup d'armes en attaque. Donc, ils se sont fait peur, mais ils ont pu gérer.
Oui, en attaque, effectivement, il y a ce petit creux, on va dire, une fois qu'ils mènent 21-0. Mais encore une fois, ils ont réussi à reprendre les devants avec un Jared Goff qui est quand même... qui s'accroche, qui a depuis 3-4 semaines des temps faibles, on va dire, dans les matchs, mais qui arrive souvent à combler ça avec un dernier bon drive ou deux derniers bons drives. Ça a été le cas, donc il a la confiance de son coaching staff, qui a pas hésité finalement à lui redonner les ballons, à le mettre au centre de l'attaque pour remonter, pour reprendre l'avantage ou le conserver. Donc ça, c'est à son mérite de Ben Johnson. Après, moi, je reste embêté quand même par cette défense de Détroit qui encaisse beaucoup, beaucoup de yards. Les turnovers, à mon sens, sont plus de la faute des Saints que ceux de Détroit. Enfin, le drop de Juwan Johnson qui se termine en interception. Bon, c'est pas la défense qui la provoque.
Oui, même la collision entre Carr et Hurst qui provoque,
c'est
ça. Provoque le fumble.
Ouais. Ouais, c'est pas vraiment des turnovers provoqués par la défense. C'est plus des turnovers provoqués par l'attaque. Et donc sans ça, c'est quand même une défense de Détroit qui pourrait, à mon sens, être rédhibitoire un peu pour la suite. Voilà, j'ai pas été totalement convaincu. Après, quoi qu'il arrive, les Lions continuent de gagner. Ils sont plus qu'à un match de la tête de conférence, si je dis pas de bêtises, à une victoire. Écoute, vu leur calendrier, vu celui de Philadelphie, ils peuvent rêver obtenir la place numéro 1. Donc moi, malgré toute belle victoire, et c'était bon à prendre.
Ouais, pardon, je voulais juste te dire, oui, c'est vrai que cette défense, je trouve que un des régulateurs là encore défensifs, je trouve, c'est Aidan Hutchinson. C'est qu'on lui demande de faire beaucoup de choses dans cette défense, mais je trouve que l'impact qu'il est censé avoir en tant que pass rusher principal, on le ressent pas assez. Et malheureusement, ça fait de cette équipe de Détroit une équipe qui peut en effet se faire bousculer dans les tranchées. Là, en plus, en cours de match, ils ont quand même souvent vu sortir Alim McNeil sur l'intérieur de la ligne, et ça complique la tâche pour une équipe qui joue avant tout sur le côté vraiment physique, que ce soit en attaque ou en défense. Quand t'as une ligne défensive qui commence à être un peu plus permissive, ou en tout cas beaucoup plus maîtrisée, en effet, on peut se retrouver à devoir un petit peu faire le dos rond parce que l'adversaire a clairement récupéré le momentum.
Les Saints donc ont commencé le match sans le commencer. Derek Carr s'est réveillé un peu après. Il était à 17 sur 22, 226 yards, un touchdown et une interception quand il sort sur blessure. Jameis Winston n'a pas réussi à conclure le comeback. Grégory, on dirait qu'ils ont les éléments, mais qu'on le voit que par épisode. Parce que Chris Olave est très bon, mais ils n'arrivent jamais à tout assembler sur des périodes étendues.
Ben, le problème, il est là, et ça aussi, ça va être un point fondamental. Je pense qu'il est temps de tourner la page Pete Carmichael à New Orleans. On ne comprend pas offensivement ce qui est mis en place. On a eu un sketch monumental lors du premier quart-temps où Derek Carr, qui en plus, je pense, étant quand même en crise relative de confiance, était sorti un jeu sur deux pour faire rentrer Taysom Hill au poste de quarterback. Je peux comprendre l'importance d'un Taysom Hill et la polyvalence, puisqu'en l'occurrence, sur les séquences où il a été utilisé, il a posé des problèmes pendant un long moment à cette défense de Détroit. Mais est-ce que tu es forcément obligé de le faire rentrer numériquement en quarterback à la place de Derek Carr pour piéger cette défense de Détroit? Et du même coup, après des séquences qui fonctionnent de la part de Taysom Hill, refaire rentrer Derek Carr qui passe un peu pour le joueur qui du coup casse un peu l'ambiance du Superdome, c'est des choix qui sont extrêmement douteux. Tu parlais de Chris Olave, on a mis énormément de temps à le trouver, et en effet, bizarrement, quand on a réussi à pouvoir l'alerter en attaque du côté de la Nouvelle-Orléans, on allait quasiment systématiquement au touchdown. Donc honnêtement, j'ai du mal à trouver de la cohérence au niveau de cette attaque. Certes, la ligne offensive a été de meilleure qualité par rapport à ce qu'on peut voir depuis le début de la saison. Certes, Alvin Kamara a mieux tourné d'ailleurs, notamment au niveau du jeu au sol. Alors, les stats sont pas extraordinaires, mais en tout cas, il va quand même deux fois au touchdown à la course. Mais c'est une attaque qui est trop amenée à se tirer des balles dans le pied, je trouve. Et je pense qu'à un moment donné, Pete Carmichael a fait son temps du côté de la Louisiane et qu'il est temps de tourner la page.
On passe aux Jets 8, Falcons 13, pas le plus beau match de la semaine, euphémisme, mais les Falcons sont désormais leaders de la NFC Sud avec 6 victoires et autant de défaites. Ils ont volé 3 ballons aux Jets, le seul touchdown de ce match, ça arrive suite à un fumble des Jets dans le second quart. C'était une bouillie offensive des deux côtés. Raphaël, le moins mauvais à gagner?
Oui, le moins mauvais offensivement à gagner, oui, c'est ce qu'on pouvait dire. On s'y attendait, hein, à ce que les Falcons fassent suffisamment, j'ai envie de dire ça comme ça, même si le terme suffisant est presque gentil, mais fassent assez en attaque pour faire mieux que les Jets. Voilà, donc on n'a pas été très surpris de voir ça. Après, c'est quand même un contenu largement insuffisant pour cette équipe des Falcons, où on peut pas dire qu'il n'y a pas eu le matos donné au coach pour faire mieux quand même ces dernières saisons. Donc ça reste embêtant. Heureusement, il y a quand même ce positif en défense où je trouve qu'il y a des joueurs vraiment intéressants cette saison. Le tackle Onyemata, on a un Jesse Bates qui arrive à l'intersaison qui est absolument fantastique depuis le début de l'année. Donc bon, heureusement qu'il y a ça pour se réjouir parce que offensivement, c'est quand même très très compliqué quoi.
Grégory, pas impressionné par la prestation des Falcons en attaque. Desmond Ridder est à 121 yards et un touchdown. Ils ont gagné même pas 250 yards, non, je suppose. Même pas 200 yards, 194 yards ils ont gagné. Alors je sais qu'il y a une bonne défense en face, des mauvaises conditions météo, etc., etc. Mais 2,6 yards par course, quand ton identité offensive c'est censé être la course, c'est compliqué.
Mais c'est ça. Mais on voit qu'ils n'ont pas forcément délaissé le jeu à la course et que globalement ils ont été bien maîtrisés dans ce domaine-là. Ils doivent faire à peine 3 yards au sol par jeu. Donc,
2-6.
Voilà, donc au bout d'un moment, tu ne peux pas exister si tu décides de mettre en place. Mais après, ça va être le problème qu'ils vont rencontrer jusqu'à la fin de la saison régulière. C'est-à-dire que clairement, maintenant, on a identifié que Desmond Ridder pouvait être au mieux un gestionnaire, mais pas forcément un joueur capable de vraiment détonner dans le domaine aérien, malgré en effet les cibles qui ont été mises à sa disposition. Et maintenant qu'il va y avoir un jeu au sol extrêmement assumé de la part d'Arthur Smith, s'il y a une défense qui arrive à s'ajuster, ça peut être une prestation offensive extrêmement pénible. Pour peu dire, et ça a été le cas parce que globalement, que ce soit Robinson, Algier ou Patterson, ça a été extrêmement bien contenu. Et derrière, en effet, il y a eu un mini éclair en effet sur un ballon volé sur ce touchdown de Michael Pruitt pour faire la différence. Mais heureusement qu'en face, offensivement, c'est encore plus faible parce que voilà, le contenu n'était pas forcément de qualité. Mais je rejoins globalement ce qu'a dit Raph sur le contenu défensif des Falcons.
Alors clairement, c'est plus faible en face, là encore, hein, on manie l'euphémisme. Du côté des Jets, c'est toujours la même musique, c'est-à-dire que la défense a été plutôt bonne, l'attaque a été horrible, 2,5 yards par course, donc encore moins que les Falcons. Et alors des quarterbacks à l'agonie derrière une ligne offensive qui est pas bonne du tout, de toute façon. Tim Boyle est 14 sur 25, 148 yards, une interception, ils le sortent après l'interception, ils font rentrer Trevor Siemian, 5 sur 13, 66 yards. Il n'y a plus rien à dire, Raphaël, je te vois fermer les yeux.
Non,
Raphaël,
non, mais...
il médite. Il est genre...
Non, mais il n'y a plus rien à dire. Effectivement, la situation au poste de quarterback est compliquée, et celle qu'on connaît, et la ligne offensive, c'est pareil. Après, faut aussi à un moment virer le monsieur qui est sur le banc de touche, le coordinateur offensif. Enfin, c'est quand tu vois ce que depuis le début de la saison, on a quand même une ligue où on a une dizaine de quarterbacks blessés. Pourquoi ce sont constamment ceux des Jets qui font les pires performances? Enfin, tu vois, il y a un moment, faut aussi quand même s'interroger là-dessus. On va reparler du quarterback remplaçant des Bengals hier qui a disséqué la défense des Jaguars. Je suis pas persuadé que Brewing soit particulièrement fantastiquement supérieur à un Trevor Siemian. Enfin, la différence de contenu peut pas juste être expliquée par le niveau du quarterback. Donc, il y a un moment, le Hackett, c'est juste pas possible. Donc, il y a un moment, faut prendre ses responsabilités et virer le coaching staff, en fait. Enfin,
Et puis on parlait d'Atlanta qui, en effet, vu les limites de Reader, était parti dans un full jeu au sol assumé. Moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que, certes, le jeu au sol des Falcons cette semaine marche pas, mais la semaine dernière il a tourné à plein régime. Le jeu au sol des Jets, on ne l'a quasiment jamais vu cette année. Avec les problématiques de quarterback qu'il y a eu, on parle là-dessus. Où sont les adaptations pour un Nathaniel Hackett qui était déjà à Green Bay dans une époque où ça courait beaucoup dans le système offensif des Packers? Donc, a priori, il est capable de le faire. Manifestement, il n'a jamais trouvé la clé à ce problème.
Mais là, les gars, on disserte pour rien. De toute façon, on sait aussi très. Non, mais on sait très bien ce qu'il en est. C'est-à-dire que Nathaniel Hackett, il est intouchable parce que c'est le copain d'Aaron Rodgers. Comme les Packers avant eux, ils sont otages d'Aaron Rodgers maintenant. Donc,
ce sera l'excuse à l'intersaison. On dira oui, mais vous allez voir, Aaron Rodgers va revenir. Nathaniel Hackett le connaît.
Il y a zéro chance qu'il bouge, que ce soit là ou à l'intersaison. Et même là, on va te dire oui, mais Aaron Rodgers est sur le point de peut-être revenir maintenant ou demain ou après-demain ou on ne sait pas. Mais ils sont otages de lui. Donc, ils mourront et ils vivront avec lui. Donc, ils mourront et vivront avec Nathaniel Hackett avec. Et on sait bien que Nathaniel Hackett, quand on a vu ce qui s'est passé à Denver l'an dernier, je veux dire, voilà, si t'as pas Aaron Rodgers.
Oui, ça a pas l'air d'être un meneur d'homme, quoi. Une fois que ton quarterback sera plus forcément à 100% derrière toi, je pense en effet que le coup de balai peut intervenir assez vite. Mais je sais pas si t'allais enchaîner là-dessus, Alain, mais juste une petite parenthèse pour terminer, peut-être sur les Jets, de mon côté. Mais alors, c'est un broglio autour de la situation de Zach Wilson.
J'allais terminer là-dessus, en effet.
Ah, voilà, bah vas-y. Alors, je sais pas ce que t'allais poser comme question, mais.
Alors, j'allais pas forcément te poser de question. J'allais expliquer à nos auditeurs qu'en effet, les dernières nouvelles en provenance des Jets, selon The Athletic, seraient qu'on pense à remettre Zach Wilson, mais qui, aurait pas envie.
Non, mais c'est terrible d'entendre
ça. Hallucinant.
Franchement, j'espère que c'est pas vrai et que, voilà, c'est peut-être les médias new-yorkais qui en font. Oui, généralement, via Athletic, oui, normalement, c'est assez fiable. Mais, honnêtement, si on en est à ce point-là, honnêtement, le problème vient plus d'Hackett.
Ah bah là,
c'est
incroyable.
Le problème vient de plus haut. Parce que, à un moment donné, c'est pas possible. Déjà, tout cet imbroglio autour du poste de quarterback, on a stigmatisé semaine après semaine Zach Wilson, qui en effet faisait des mauvaises prestations, ou en tout cas, avait des pertes de balles, très fâcheuses pour les Jets. On l'a stigmatisé pendant des semaines et des semaines pour nous mettre, la bande de coiffeurs qui a suivi et qui manifestement n'arrive pas à donner un meilleur rendement. Et derrière, on va faire genre, on va peut-être faire machine arrière finalement. Ah bah non, finalement il veut pas jouer. Enfin,
c'est un délire.
Franchement, c'est un sketch. Moi, j'ai une grosse empathie pour les fans des Jets parce que franchement, c'est pas possible d'avaler des couleuvres pareilles saison après saison, quoi.
C'est globalement une équipe qui en effet nous divertit beaucoup depuis la création de ce podcast.
C'est incroyable.
On
peut pas leur retirer ça. Mais c'est vrai que moi je suis. Après, en fait, je commence même presque à compatir avec Wilson parce qu'au début, quand j'ai vu qu'il voulait parvenir, je me suis dit ah ouais, le gars est gonflé parce qu'il a eu 200 chances et maintenant il dit non, mais le gars, en fait, vous me saoulez. Mais en même temps, peut-être qu'il est traumatisé par Nathaniel Hackett, il en a marre de prendre des coups, j'en sais rien, mais c'est un cirque.
Ouais, enfin, ça, encore une fois, j'espère. Enfin, encore une fois, c'est via Athletic, mais j'espère que c'est pas vrai parce que ça dénoterait encore plus le manque de professionnalisme du gars. Parce que même si tu joues pas pour sauver la saison des Jets, joue au moins pour t'assurer un poste à minima de QB2 dans une autre équipe l'année prochaine. Parce que là, le message pour les autres franchises, il est terrible.
Ou à minima, en dehors de t'assurer un prochain contrat, déjà, justifier le salaire que tu touches, parce que t'es payé pour jouer quand même.
Non, mais ça, c'est un minimum, on est d'accord. C'est un prérequis de base. Mais si ton plan, c'est de dire j'anticipe ce qui va se passer, les catastrophes qui peuvent venir avec ma ligne offensive, c'est qu'à un moment donné, t'as rien à faire en NFL, en fait, que ce soit à New York ou ailleurs.
Encore une fois, hein, 3 855 516 $ cette saison. Donc, rien que pour ça, il prend ta retraite derrière, tu vois. Mais... Ou alors, il prend sa retraite tout de suite. Oh, ça, ce serait incroyable. Tu sais, genre, demain, on apprend. En fait, Wilson veut plus jouer du tout. Il prend sa retraite. Bonne journée, au revoir. Salut tout le monde. Ce serait vraiment incroyable. Franchement, et puis tu sais, après il balance sur Aaron Rodgers et tout.
Non, non, tu sais quoi, il l'annonce à la surprise générale en conférence de presse et après il dit moi je ferais jouer plutôt Siemian à la place de Boyle. Mais on verra ce que fera le coach.
Voilà pour les Jets, petite pause et on se retrouve pour la suite des matchs.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Commanders 15, Dolphins 45, la démonstration de la semaine, beaucoup de points, une attaque de Miami qui s'est régalée, mais aussi la défense. C'est un pick 6 qui leur permet de mener 17-0, ils limitent leurs adversaires à moins de 300 yards pour la 6ème fois de suite. Est-ce que c'est pas plutôt du côté de la défense de Miami qu'il fallait regarder, Raphaël? Parce que les Tyreek Hill, tout ça, ça attire l'œil, mais mine de rien, il se passe quelque chose en défense.
Si, si, effectivement, c'était peut-être plus en défense qu'il fallait retenir quelque chose cette semaine du côté des Dolphins. On a eu une défense qui monte en régime et qui progresse, qui finit enfin par progresser, j'ai envie de dire, sous la houlette de Vic Fangio. En plus, mine de rien, les yards encaissés sont pas anodins parce qu'on sait quand même Samuel balance dans les airs depuis le début de la saison, donc Washington arrive quand même à faire avancer le ballon depuis le début de la saison, donc pas toujours avec succès en red zone et des fois ça finit par bloquer, mais en tout cas ils sont capables de prendre des yards et là j'ai trouvé quand même que Miami avait été vraiment costaud pour stopper tout simplement l'avancée de cette attaque. Ils se sont bien débrouillés aussi contre la course. Donc non, c'est une belle prestation défensive du côté des hommes de Vic Fangio, avec des joueurs en plus qu'on n'attendait pas forcément. Je pense à Andrew Van Ginkel, qui n'est pas forcément attendu comme un joueur important et qui arrive à sortir du banc et à prendre de l'importance. Donc c'est un groupe qui commence à être vraiment consistant du côté de Miami.
Grégory, performance malgré en plus l'absence de Jalen Phillips. Donc c'est que du positif sur ce match.
Alors je sors mon joker, ma carte joker bye week, parce que là encore la semaine de repos on voit quand même un visage assez différent défensivement de la part de Miami comme vous le disiez. Et puis au-delà de la semaine de repos, je pense que le retour de Jalen Ramsey fait quand même beaucoup de bien, mine de rien, cette défense de Miami.
C'est la dernière semaine, ouais.
Et sans anticiper peut-être qu'on va dire après, mais le fait qu'un Terry McLaurin par exemple ait aucune réception, c'est pas tout à fait étranger à ça. Donc en effet il y a la blessure de Jalen Phillips malheureusement qui peut être à négocier de la part de Miami, mais on retrouve en effet un front seven assez homogène comme on pouvait le voir aux plus belles heures, notamment de l'ère Brian Flores. Si en plus derrière on a un backfield défensif capable de couvrir les meilleurs receveurs adverses, en effet c'est une défense qui peut poser des problèmes à pas mal de formations.
Du côté de l'attaque, on va pas s'éterniser, on a l'habitude, Tagovailoa 280 yards de touchdown, Tyreek Hill 157 yards de touchdown, Devon Akane était de retour pour un match entier, 73 yards de touchdown au sol. Quand ils sont comme ça, c'est difficile de faire quoi que ce soit. On va plutôt aller sur l'attaque de Washington. Samuel envoie son troisième pick six en trois matchs, ils sont sur quatre défaites de suite. Est-ce que la belle histoire Samuel est en train de se terminer, Raphaël? Tu le disais, il lance beaucoup de yards, mais là ça commence à être un peu compliqué.
Ouais, effectivement, c'est un peu compliqué. Il fait des erreurs. Après, ça, je sais pas, j'ai envie encore un peu de continuer à voir. Ça reste un jeune quarterback qui a pas fait tant de matchs que ça. On lui confie les rênes de l'attaque, mine de rien. Peut-être trop, d'ailleurs. Ça pourrait être un autre sujet. Là, il est pas aidé par le jeu au sol. Il y a un Terry McLaurin qui est quand même bien couvert.
T'es dur, il y a 138 yards au sol.
Ah, c'est pas le jeu au sol dont j'aurais parlé. Hein.
Ouais, oui, bon, ok, sur ce match-là, peut-être pas, mais...
Je sais par qui il est pas aidé, et j'aurais pas dit le jeu au sol.
Mais bon, puis après, voilà, ligne offensive complexe, enfin, compliquée à gérer, même si je pense qu'il a un peu sa part là-dedans, mais bon, c'est un autre sujet.
Écoute, oui, il garde beaucoup le ballon.
Ouais, il garde beaucoup le ballon, c'est ça qui m'embête. Moi, je pense que Washington doit continuer un peu l'expérimentation Samuel. Je pense pas qu'il. Je pense que de toute façon, le plus gros problème est le head coach, mais c'est encore un autre.
Tout le monde revient là-dessus. Attendez, juste avant, petit quiz, parce qu'on parlait de la ligne offensivement en difficulté. Est-ce que vous savez combien de yards ils ont perdu sur les 58 sacks encaissés par Samuel cette saison?
58, bah.
230.
Ouais, 300, un truc comme ça.
Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais quasiment 400.
Ouais.
Donc ils ont reculé de l'équivalent de 4 terrains.
Ah oui.
Oui.
Sur les sacs encaissés par Samuel.
Ah, ça ne
s'invente
pas. Hein. Eh ben,
ça fait mal. Bon, sinon, en effet, j'ai bien compris, on enterre le coach, Grégory.
Alors, à mon sens, il n'y a pas que le coach qu'on enterre. Parce que moi, à un moment donné, je veux bien cette équipe de Washington. Alors, j'entends ce que vous dites sur ça. Enfin, globalement, ce que dit Raph, je suis assez en accord là-dessus. C'est-à-dire qu'en effet, déjà que Samuel était parachuté aussi vite, pour moi, c'était peut-être pas une si bonne solution que ça. Surtout qu'en effet, quand tu te retrouves derrière la pire ligne offensive du pays, on sait qu'il avait cette fâcheuse tendance à garder le ballon. C'était déjà le cas à l'université où il pouvait avoir la capacité de courir. Mais là, manifestement, il n'y a tellement pas de brèche que de toute façon, peu importe qui garde le ballon, généralement, ça va se finir en sac. Je continuerai en effet l'expérience peut-être Samuel. Mais à un moment donné, moi, ce qui m'embête avec cette équipe de Washington, c'est que c'est pas une équipe qui est si loin que ça des autres en termes de talent, de roster. Le seul problème, à mon sens, c'est qu'ils sont tués par des postes précis en attaque et en défense. Et à mon sens, c'est la responsabilité du head coach. C'est aussi et surtout la responsabilité du general manager Martin Mayhew. Et je pense qu'il va falloir faire un bon coup de balai de la part du nouveau propriétaire des Commanders pour repartir vraiment sur une nouvelle page. Parce que tu ne peux pas en attaque dire on tente un pari avec le ticket Bienemy Owell en mettant une ligne offensive aussi catastrophique. Et tu ne peux pas arriver en début de saison en te targuant d'avoir recruté lineman défensif de qualité sur lineman défensif de qualité et avoir un backfield défensif aussi poreux et qui là, face à Tyreek Hill, avait aucune chance de pouvoir vraiment stopper cette attaque de Miami. Donc malheureusement, ces deux secteurs qui ont été en plus paradoxalement considérés lors de la draft, hein, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont quand même drafté un corner, un safety et un centre relativement haut l'année dernière lors de la sélection des joueurs universitaires. Et malheureusement, on voit que les choix ne sont pas judicieux. Donc je pense qu'il faut repartir d'une page blanche et changer l'organigramme global des Commanders.
Ben voilà, on a fait large. Hein. On est parti du match pour refaire toute la franchise. On est parti très large. Très bien, on va enchaîner avec les Jaguars 31, Bengals 34. C'était le match dans la nuit de lundi à mardi. Une des surprises de la semaine avec un Jake Browning hyper convaincant. Et puis des choix malins de Zach Taylor, mine de rien. Pourquoi il n'utilise pas le jeu au sol comme ça quand il y a Joe Burrow, Grégory, toi qui es un grand supporter de Zach Taylor?
Ça, c'est une très bonne question, peut-être parce que Joe Mixon est un peu plus concerné peut-être ces dernières semaines, je ne sais pas. Après, on voit qu'il est toujours aussi polyvalent, hein, c'est sa faculté. Là, le facteur supplémentaire, c'est quand même l'intégration du rookie Chase Brown qui change beaucoup de choses. On n'était peut-être pas chaud à le lancer très rapidement dans les premières semaines de saison régulière. Maintenant, on voit qu'avec un jeu aérien peut-être plus touchy entre guillemets, c'est peut-être bien d'avoir un comité de coureurs un peu plus renforcé et moins dépendant de Joe Mixon, qui va peut-être finir par coûter cher aussi. Donc voilà, forcément, ça, j'ai presque envie de dire il y avait une forme d'insouciance entre guillemets, dans le sens où on se dit on est à 5-6, on est dernier de la division. Si on tente pas un pari maintenant, si on tente pas des paris maintenant, des choses pour tenter de redresser la barre et potentiellement mettre moins de pression sur Jake Browning, on le fera jamais. Le truc qui s'est passé sur ce match-là, c'est que Jake Browning, il fait le match de sa vie aussi en parallèle. Donc, c'est sûr que ça devenait compliqué de stopper durablement cette attaque de Cincinnati.
Browning, il a régalé 32 sur 37, 354 yards, un touchdown. Raphaël, on avait des flashs de Joe Burrow, là.
Ouais, pas sur les mêmes qualités, mais effectivement, pour le coup, ça a été quand même bien joué de Zach Taylor. Ils ont voulu d'abord installer le jeu au sol dans ce match et avec des petits lancers pour Browning, parce que sur sa première série, c'est des passes de 1 ou 2 yards dans les airs et pas beaucoup plus, et on lui laisse prendre un peu de rythme, et le jeu au sol fonctionnant, ils se sont mis progressivement à ajouter des play action, etc., à faire sortir un peu Browning de la poche pour lancer en mouvement sur des joueurs isolés. De plus en plus le cahier de jeu, on va dire, s'est élargi au fur et à mesure que la défense finalement de Jacksonville mordait au piège des courses appelées ou pas. Donc ça a été quand même bien coaché pour le coup. C'est vrai que c'est dommage qu'il soit pas toujours inspiré de la sorte, mais bon, ça a son crédit quand même là pour le coup de sortir cette prestation là. Donc beau match des Bengals qu'on attendait presque plus, j'ai envie de dire, en tout cas après après une blessure. Il y a eu aussi pas mal de drives où ils mettent 6 linemen offensifs ou 5 linemen plus un tight end pour vraiment aider la poche. Bon, ça a été bien amené tout ça et Zach Taylor a surcoaché, on va dire ça comme ça, désolé pour l'anglicisme, a surcoaché Doug Peterson sur ce match tout simplement.
Ouais, c'est un très beau match, hein. Les deux équipes se sont bien suivies, ça a répondu coup pour coup et les Bengals ont bien tenu. Ce sera à voir sur la durée pour Jake Browning, mais en tout cas 6 partout, 6 victoires, 6 défaites, ils sont dans la course au playoff. Du côté de Jacksonville, la soirée est un peu plus compliquée, notamment à cause de la blessure de Trevor Lawrence au niveau de la cheville, si je ne dis pas de bêtises. Il prend un joueur la cheville. Ouais. Au moment où on se parle, on attend les résultats des examens, donc on ne peut pas vous dire, mais vous
c'est
en serez sûr
non,
en plus.
A
priori, on parle juste d'une entorse et ce serait pas trop grave, mais est-ce qu'il sera en état de jouer à fond sur les prochains matchs? Ça va
C'est possible qu'il loupe un ou deux matchs. Ouais. Au moins un, je pense.
Ça va être... En tout cas, voilà. Où est-ce qu'il sera strappé et gêné? On a vu notamment avec le mollet de Joe Burrow ou avec des Patrick Mahomes ces dernières années. Voilà, ça va être à suivre. Il a pas grand-chose à se reprocher, Joe Burrow, j'ai l'impression. Il perd sur quoi ce match, Raphaël?
Trevor Lawrence, tu veux dire.
Trevor Lawrence, j'ai dit quoi, Joe Burrow? Oui, Trevor Lawrence.
Oui. Sur quoi est le match? Ils le perdent sur la défense, peut-être, ou c'est vrai qu'ils se font quand même cette incapacité à bloquer le jeu au sol, ou en tout cas cette difficulté à bloquer le jeu au sol des Jaguars, des Bengals, leur a fait mal, et a fait qu'ils se sont retrouvés exposés derrière aussi dans les airs. Je pense que c'est en défense qu'ils le perdent plus qu'en attaque, mais bon.
On perd plus en défense, Grégory, du côté de Jacksonville.
Ouais, cette équipe, globalement, elle est quand même difficile à analyser d'une semaine sur l'autre parce qu'ils sont capables de maîtriser n'importe quelle attaque comme ils sont capables de s'écrouler littéralement. On se rappelle par exemple du match aller à Jacksonville face à Houston. J'ai souvenir du match à Indianapolis en première semaine, ça avait été aussi très très compliqué. Enfin, de base, depuis que le coordinateur défensif Mike Caldwell est là, il y a toujours 2-3 matchs dans une saison où on a l'impression que les vannes sont grandes ouvertes. Et là, malheureusement, je ne sais pas si on a eu un peu trop d'orgueil du côté de Jacksonville à se dire « bon, on est en Monday Night contre une équipe qui est déplumée de son maître à jouer offensif ». Mais hormis Josh Allen, c'est pas normal qu'avec le talent défensif qu'on a à disposition, qu'il y ait des joueurs que ce soit autant retrouvés en difficulté. Tyson Campbell en tête, même si lui, pour le coup, revenait de blessure et a été constamment pris de vitesse par Jamar Chase. Mais voilà, on est en droit d'attendre autre chose de la part de cette équipe des Jacks. Que le jeu au sol de Cincinnati est mieux tourné, c'est pas infamant. Qu'ils prennent 350 yards de la part de Jake Browning dans une situation où tu dois valider une bonne fois pour toutes le titre de division, parce que mine de rien, derrière Houston et Indianapolis peuvent être pressants, et la situation autour de Trevor Lawrence devient encore plus préoccupante par rapport à ça. C'est clairement pas une bonne gestion de ce Monday Night du côté de Doug Peterson et de ses hommes.
Ils en reparleront dans les previews, mais la AFC Sud est plutôt relancée. Il n'y a plus qu'un match d'écart entre Jacksonville et derrière eux les Colts et les Texans. Steelers 10, Cardinals 24, le match le plus long de la semaine, physiquement, interrompu deux fois par la météo. Il y avait de l'orage du côté de Pittsburgh, pas trop de suspense sur le terrain. Les Cardinals se sont détachés au fil du match jusqu'à mener 24-3 dans le dernier quart. Ils ont profité de l'inefficacité totale de Pittsburgh en attaque. Ils ont marqué sur un long drive en fin de première mi-temps. Et puis, ils ont profité des bonnes positions offertes par les erreurs de Pittsburgh pour marquer deux fois après la pause. Kenny Pickett a été touché à la cheville en cours de match, mais même avant ça, l'attaque de Pittsburgh était en échec. Raphaël, tu étais sur ce match, hein, de mémoire, c'est toi qui as eu le droit à tous les, les arrêts. Ça a été long sur les arrêts, mais c'était long quand même de regarder l'attaque de Pittsburgh aussi avant, si j'ai bien compris.
Oui, voilà. C'était vraiment compliqué à regarder, mais comme depuis le début de la saison, hein, j'ai envie de dire, en dehors de peut-être l'épiphénomène de la semaine dernière où quelques-uns ont commencé à un petit peu s'exciter pour les 400 yards, malgré le fait que Pittsburgh n'avait mis que 18 points au passage, hein, bon, ce qui prouvait que c'était quand même un peu perfect.
16,
voilà,
pas
donc,
trop
en plus. Non, écoute, pour moi, ça reste toujours une ligne offensive moyenne, un quarterback pas bon, des receveurs inconsistants. Et puis alors, moi, vraiment, la gestion de l'escouade de coureurs m'interroge depuis le début de la saison. On a un Jalen Warren qui fait quasiment du 6 yards par portée. Najee Harris est plutôt autour de 3 et Najee Harris a 3 fois plus de portée que Warren. Donc je sais pas, j'avoue que là il y a quelque chose qui quand même malgré tout m'échappe. Donc bref, offensivement, mais je suis pas surpris qu'offensivement en fait c'est pas juste environ Matt Canada et un match après que tout allait changer. C'est pas une grande surprise, donc voilà. Et cette fois, la défense a pas créé les turnovers qu'il fallait pour l'emporter, donc bah ils perdent et puis c'est tout. Enfin, c'est logique en fait.
Et Kenny Pickett sera absent 2 à 4 semaines. Grégory, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur l'attaque de Pittsburgh. On peut peut-être passer à Arizona, parce que mine de rien, c'est un match plutôt sympa. Kyler Murray n'a pas des stats flamboyantes, mais il y a une vraie connexion avec Trey McBride. 8 réceptions, 89 yards, un touchdown. Il y a James Conner qui rajoute 105 yards et 2 touchdowns au sol, d'ailleurs, contre son ancienne équipe. Ça a dû leur faire plaisir. C'est toujours coaché extrêmement sérieusement par Jonathan Gannon. Et il y a une belle connexion qui se développe entre Murray et son tight end.
Alors, je ne sais pas si j'aurais dit toujours coaché sérieusement, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de rencontres cette année où on a dit que Arizona, en effet, malgré ses lacunes en termes d'effectifs, restait dans les rencontres ou en tout cas avait quand même se mettait en position pour aller en chercher quelques-unes, hein, au-delà de la victoire à l'époque contre Dallas et Atlanta. Là, l'apport de Kyler Murray, même si les stats sont pas énormissimes, en effet, ça limite déjà les pertes de balles dans le domaine aérien. Et en effet, on a su parfaitement capitalisé sur les erreurs adverses, en ce sens que il y a le turnover on down de Pittsburgh qui amène justement à la blessure de Kenny Pickett, et derrière Arizona marque juste avant la pause, donc vraiment pour mettre un vrai coup de massue sur la tête de Pittsburgh. Et puis après le fumble de Mitchell Trubisky, c'est pareil, c'est de nouveau un touchdown, donc globalement on a parfaitement su capitaliser, et ça en effet c'est à mettre au crédit des joueurs et du coaching staff. On a su vraiment ne pas laisser de place au doute, ne pas permettre justement à cette équipe de Pittsburgh de potentiellement récupérer un quelconque momentum en punissant chaque erreur qui était commise. Et comme l'a dit Raph, malheureusement, quand tu vis par ta défense et que ta défense n'est plus capable de compenser ce qui s'est passé en attaque, il me semble que TJ Watt est sorti sur blessure aussi, ou j'ai une bêtise ?
Oui, mais je crois que c'est pas sérieux.
Ouais. Il revient à un moment aussi.
D'accord, du coup, il est rentré et sorti. Quand la défense est plus capable de compenser, en effet, ça devient beaucoup trop compliqué pour les Steelers, qui sont toujours à 7-5. C'est ça qui est formidable dans cette AFC, c'est que on peut montrer un bon visage une semaine sur deux et être toujours en course pour les playoffs.
Ils sont toujours vivants. Raphaël, ces Cardinals, ils tombent. Moi, je trouve Greg un peu dur quand il dit pas toujours extrêmement sérieusement coaché. Je trouve qu'ils sont dans tous les matchs, malgré un effectif qui est quand même un des plus faiblards de la ligue, notamment avant le retour de Murray. Là, il y a encore. Le but pour eux, c'est de mettre des choses en place pour l'an prochain. Raphaël, j'ai l'impression qu'ils y arrivent plutôt bien.
Oui, je pense aussi que c'est le but, effectivement, pour les Cardinals. Hein. Ils ne s'attendaient pas à faire une très bonne saison, surtout en commençant avec Kyler Murray absent quasiment 10 semaines. Je pense qu'il n'y avait pas d'ambition immense, et même en voyant l'effectif. Comme toi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas plus de matchs cette saison bien coachés que de mauvais. Il y a eu quand même quelques matchs pas bons du tout. Hein. Faut pas non plus. Enfin, ils sont quand même à 3-10, donc on peut pas non plus faire croire que tout a été globalement très bien coaché. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques défaites plus par le manque de talent que par le coaching. Donc c'est quand même à mettre au crédit de Gannon malgré tout sur le bilan global, on va dire. Et puis je trouve que Murray est bien revenu, comme vous. Les stats sont pas flamboyantes, mais j'ai trouvé dans la distribution des passes, dans la capacité à aller toucher un peu tout le terrain, c'était vraiment pas mal ce qu'il a proposé. Donc ça se met en place.
Il y a un drive qui commence quasiment devant leur but quand ils vont.
Ouais, il remonte
le drive du
turnover en down. Quasiment, un drive qu'Arizona avait pas fait de la saison sans Kyler Murray, quoi.
On a parlé du match physiquement le plus long de la soirée, on va passer au match psychologiquement probablement le plus long de la soirée. Patriots 0, Chargers 6, le premier set est donc pour Los Angeles. Victoire des Chargers, 6 points, c'est le plus petit total de l'histoire de la franchise dans une victoire. C'est la première fois qu'ils gagnent en marquant si peu de points. Alors ok, il pleuvait, mais est-ce que... Qu'est-ce que c'était que ce match en attaque des Chargers, Raphaël ?
C'est vrai qu'on a... Alors... Les Chargers brillent pas par leur régularité, mais malgré tout, s'il y avait quand même un classique, on va dire, dans les Chargers ces dernières semaines, dernières saisons, c'était quand même la capacité de marquer plus que 6 points. On peut pas le nier que c'était quand même une attaque qui tournait globalement bien, même si des fois il peut y avoir des pertes de balles, etc. et un jeu au sol un peu lacunaire, mais globalement, ils savent marquer des points. Donc là, c'était surprenant. Ils sont tombés sur une bonne défense des Patriots, on peut pas dire le contraire. Et je trouve que un des problèmes là vraiment ces dernières semaines du côté de Los Angeles, c'est la ligne offensive qui est pas au niveau, vraiment pas au niveau, que ce soit sur la protection ou la capacité à ouvrir des brèches, et ça commence à peser beaucoup sur cette attaque, sur un système offensif qui à mon sens est en train de ralentir en partie à cause de ça et du manque de receveur numéro 2 aussi.
Tu parles de ralentir, clairement il y a une tendance, c'est-à-dire que 20 points, les 3 derniers matchs, 20 points, 10 points, 6 points,
oui, ça va.
24 courses pour 29 yards, tu le disais, 1,2 yards par course, on parlait des Falcons et des Jets, mais alors là c'est, tu divises encore par deux. Justin Herbert a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire qu'ils ont, alors excusez-moi je me suis coupé en cherchant une stat et elle ne se raffiche plus, mais ils sont même pas allés une seule fois dans les 20 yards adverses. De
non,
tout
mais,
le match.
Non mais il y a pire là. Il y a pire. Les 6 points des Chargers, ils sont marqués sur 2 drives que les Chargers démarrent dans la moitié de terrain adverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont démarré dans leur moitié de terrain, ils n'ont jamais été capables d'aller marquer des points à New England. Moi honnêtement, ça dépasse l'entendement. Le niveau des Patriots, on va peut-être en parler dans quelques secondes, mais on découvre plus grand chose, malheureusement, notamment offensivement, mais franchement, heureusement qu'Keenan Allen, même sur une jambe, est capable d'apporter un tant soit peu à cette équipe des Chargers, parce que je ne sais même pas quel serait leur bilan, sans ce qu'arrive à faire Keenan Allen cette saison. Bon, encore une fois, on a des forts soupçons sur le fait que Justin Herbert, c'est pas à 100%. On l'a dit, il y a une ligne offensive qui est pas de qualité. Il y a un jeu au sol où il faut qu'il y ait un électrochoc et du sang neuf, parce que malgré la polyvalence de Sidney Clair, je pense que ce n'est pas un running back numéro 1 et ça saute aux yeux de semaine en semaine. Mais c'est pas possible de proposer un contenu offensif de ce niveau-là, quel que soit le niveau de la défense adverse. On sait que les Patriots peuvent avoir un bon niveau. Mais là, 6-0 dans un match là où l'équipe en face joue quasiment pas, c'est normal.
Est-ce que c'est une déception Kellen Moore, le coordinateur offensif, mine de rien, parce que c'était un peu une des sensations de l'an dernier, les Cowboys, etc. Les Cowboys y tournent encore, pas lui.
Ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé avec les Chargers quand même qui marquaient pas mal de points en début de saison. C'est vrai que là, ça patine pas mal. Je sais pas si effectivement c'est un peu un manque d'adaptation au roster qui commence à poser problème, ou je lui laisserai un coup. Enfin, je suis pas sûr qu'il ait de la chance si le coaching staff se vire. C'est pas dit que s'il y a un nouveau coach,
c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, bon, de toute façon, on verra qu'une année donc.
Ouais, on risque de voir qu'une année donc en fait, on sait pas, on saura jamais. Et puis voilà.
Disons qu'il a laissé passer sa chance de piquer le job de Brandon Staley. Ça, c'est,
oui, il cède pas, pas pour dire bah gardez-moi, c'est une bonne idée.
Ouais. Du côté des Patriots, alors est-ce que les Patriots sont en train de devenir les Jets?
Parce que... c'était ma punchline du jour. Merci Alain.
Voilà. On s'est pas concerté.
Les grands esprits, tout ça.
Voilà. Défense solide comme toujours. Quarterback à la ramasse comme toujours. On a testé Bailey Zappi aujourd'hui. 13 sur 25, 141 yards et pas de touchdown. Alors, coup de chapeau à la défense de Brandon Staley. 2 sacks pour Khalil Mack. 5 au total. Des bons vétérans, tout ça. Mais la blessure de Ramondre Stevenson n'aide pas parce qu'il avait du rythme sur un drive. Bon, peut-être que. Mais oui, ils se sont jetsisés en fait, ça y est quoi.
Non, mais oui,
la transformation est complète.
Mais c'est terrible, il n'y a rien en fait. Franchement, moi je suis ébloui semaine après semaine. Je me dis, mais là ils ne pourront pas faire pire que la semaine précédente. Encore une fois, je veux bien, il peut y avoir du tanking, il peut y avoir des choses. On se dit, bon, de toute façon, il laisse filer la saison et tout. Mais on parle quand même de Bill O'Brien en coordinateur offensif. Je veux dire, en termes de coach avec un peu d'ego, un peu de volonté de montrer que c'est pas lui le maillon faible de l'équipe, il peut quand même essayer de proposer autre chose avec les armes qu'il a à disposition, quoi. C'est de la bouillie semaine après semaine. C'est quand même pas normal d'avoir un tel niveau. Alors après, voilà. Moi, le premier, j'ai surestimé le rendement potentiel des Patriots cette année. Un chouïa, mais bon, je suis désolé. Non, mais la preuve, c'est que ils perdent de 4 points contre Indianapolis, ils perdent de 6 points face aux Chargers dans des matchs où ils ont quasiment pas existé. Tu te dis, mais s'ils avaient un peu appuyé sur l'accélérateur, ils auraient quand même été capables de proposer autre chose quand même cette saison, quoi. Là, c'est le néant.
Depuis leur victoire surprise sur les Bills en semaine 7, où ils avaient collé 29 points sur... On sait plus comment.
Ouais, c'est...
Derrière, ils ont marqué 17 points, 6 points, 7 points, 0 points.
Ben ouais. Donc là, on va me dire, oui, il manquait des Mario Douglas qui a montré de bonnes choses cette année. D'accord, il manque toujours. Non, mais tu vois, je veux dire, si on part de ce postulat-là, où on me dit oui, il manquait des receveurs, par exemple, du côté de New England. C'est vrai que malheureusement, ils ont eu beaucoup, beaucoup de blessés cette saison sur la position de receveur. Mais déjà, le groupe, globalement, n'était pas de qualité. Et encore oui, une voilà. fois, je veux dire, t'arrives à installer un jeu au sol qui, en effet, peut avancer par moment. Les stats d'Ezekiel Elliott, je ne les trouve pas infamantes en soi, même si, voilà, on n'est clairement plus sur du niveau Ezekiel Elliott élite. Et peut-être qu'en effet, Ramondre Stevenson, dans la lignée de ses dernières prestations, aurait pu proposer mieux au sein de cette attaque de New England. Mais je veux dire, c'est pas normal. Tu ne peux pas avoir un jeu aérien aussi calamiteux. Enfin, je veux dire, t'as quand même recruté des tight ends il y a quelques années de ça, notamment Hunter Henry, qui est plus spécialement utilisé, qui était pas inintéressant en début de saison et qui a totalement disparu dans la pénombre. Donc, ouais, franchement, du côté des Patriots, je te rejoins à 100%. Offensivement, Jets, Pats, même combat.
Raphaël.
Ouais, c'est ça. Moi, il y a certains manques de talent pur, on va dire, dans cet effectif en attaque. On le découvre pas, mais c'est vrai que je pense quand même que tu peux faire mieux. Et moi, c'est effectivement sur le poste de tight end où je suis vraiment étonné parce que j'ai du mal à croire que tu puisses pas obtenir un peu plus avec une doublette Hunter Henry, Mike Gesicki, que tu puisses pas. T'as fait venir Mike Gesicki, mais pourquoi? Enfin, à Miami, c'était pas un tight end non plus complètement nul. Il pouvait attraper des ballons. Là, tu t'en sers quasiment jamais, Hunter Henry. A disparu au fur et à mesure de la saison. Bon, c'est compliqué. Et on voit, enfin, au final, on voit que Mac Jones n'était pas plus un problème que Bailey Zappi. Hein. Je suis désolé. Non. Ceux qui se réjouissaient de voir Zappi, faudra m'expliquer. Mais,
non, mais c'est ça. Apparemment, ils ont même hésité à lancer. J'ai oublié son prénom. Micah Cunningham.
Cunningham,
ouais. Enfin, bah, allons-y, tant qu'on y est. Mais faisons rentrer le Waterboy. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein.
La semaine 18, Patriots Jets. Avec d'un côté Siemian, Wilson, Boyle et de l'autre côté Cunningham, Zappi, Jones qui vont tourner. Moi, il faut qu'on les fasse tourner. Tu en fais un carton chacun, un truc comme ça. Ça va être exceptionnel.
Non, mais j'ai rien contre Cunningham, mais on va vraiment finir à être dans les mêmes travers que ce qu'on disait sur les Jets. C'est-à-dire qu'on va changer les quarterbacks semaine après semaine et on va se rendre compte que le problème, c'est pas le quarterback. C'est les personnes qui appellent les jeux et c'est le talent global qui est insuffisant pour réussir à bien entourer le QB.
Le quarterback est un problème, mais pas le seul, disons.
Ouais, bien sûr, ouais.
Du coup, c'est incroyable parce que on disait Nathaniel Hackett, il est quasiment assuré de garder son job grâce à Aaron Rodgers. Il y a un monde où c'est Bill Belichick qui se fait démissionner plutôt que se fait prendre sa retraite et Nathaniel Hackett qui reste en poste après cette saison. C'est un monde qui existe, hein, potentiellement. On termine avec Buccaneers 21, Panthers 18. Mike Evans et Chris Godwin ont marqué pour permettre à Tampa de se détacher. Les Panthers sont revenus à 3 points. Ils ont même récupéré le ballon, mais Bryce Young a été intercepté sur 4e tentative alors qu'il essayait d'arracher le match. Mike Evans, on va commencer par lui parce qu'il était dans les leçons de la semaine de Raphaël. 10e saison de suite à plus de 1000 yards. Il faut parler de ça d'abord. Quel receveur incroyable, Raphaël.
Oui, receveur absolument fantastique, surtout qu'il a quand même sur ses 10 saisons, il a quelques saisons avec des lanceurs de ballons un peu douteux, on va dire ça comme
Alors,
ça.
Alors j'avais quiz, justement, j'avais encore quiz.
C'est vrai que c'est qui ce Tom Brady?
quel quarterback ont lancé le ballon à Mike Evans en dehors de Tom Brady?
Il y en a combien?
Mayfield.
Alors attends, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en comptant Tom Brady.
Il faut trouver les 7 autres. T'as cité Winston, c'est ça?
Ouais, Raph? Winston, Fitzpatrick aussi, non?
Il a du... Ouais.
T'as du Josh Freeman, non?
Non.
Il n'y a pas de Josh Freeman?
D'accord. Il n'a pas fait un petit moment Mike Glennon? Il n'a pas eu un petit passage avec lui, là?
Ouais.
Oui, Mike Glennon.
Ah,
j'ai...
voilà.
Kyle Trask, lui, en a pas lancé?
Je sais. Alors, j'ai pas trouvé s'il y en avait de Kyle Trask. J'ai trouvé les titulaires de... Tampa sur la... Voilà, Mayfield.
Qui a eu d'autres?
Non, Winston, Fitzpatrick.
Il vous en manque 3 du coup.
Mais c'est vieux, c'est.
Il y a le tout premier. Il y a. Et après, il y en a 2 qui sont des remplaçants en fait, qui ont dû passer vite fait sur le terrain. Je sais même pas s'il a capté des passes 2, mais en tout cas, il a joué avec
Est-ce qu'il a capté des passes de Blaine Gabbert?
Bah alors, moi j'avais Blaine Gabbert dans la liste. Je sais pas s'il a capté des passes, mais il a joué avec lui. J'ai pris les mecs qui ont joué avec à Tampa à ce moment-là.
Ouais,
hein,
Blaine Gabbert.
Et donc, il vous manque le premier, c'était Josh McCown.
Ah oui.
Et il y a Ryan Griffin aussi qui s'est glissé au milieu de tout ça.
Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà.
Voilà, c'est 10 saisons de suite. Pour situer à nos auditeurs, il y a que Jerry Rice qui a fait ça, 10 saisons de suite à plus de 1000 yards.
Donc, oui, et ceux qui avaient Mike Evans en fantasy sont très contents. Hein. J'en profite, j'ai battu Alain ce week-end.
Oh, le petit coup de poignard dans le dos.
J'ai rien dit tout à l'heure parce qu'en plus ça parlait de Najee Harris et j'étais en train de bouillir.
Je suis tellement nul cette année.
En là tu me lèves sur un plateau.
J'étais en train de bouillir quand ça parlait de Najee Harris. Dans ma tête, j'étais là. Attends, Najee Harris. Il a saccagé ma saison, tu vois. Mais bon, du coup, oui, Greg m'a battu. Après, on va pas fanfaronner, on se bat tous les deux pour les dernières places. Hein, donc,
plus moins que toi, en l'occurrence. Mais...
Greg, il est pour sa survie pour pas être dernier. Moi, je suis genre une victoire ou deux au-dessus.
Exactement. Mais je suis pas loin des playoffs, paradoxalement. C'est ça qui est magique cette saison.
Bah, on va jouer la consolante, là, tous les deux. Mais. Mathématiquement on est là, mais je crois que ça va être compliqué quand même. Bref, il y a une émission fantasy, il faudra qu'on arrive à se faire inviter dans l'émission de notre propre réseau.
Oui, bah alors moi je peux te dire en termes de plus-value fantasy, je pense que écoutez mes choix pour les faire.
Voilà. Donc on disait quoi? On disait donc Mike Evans est incroyable. Sur ce match, donc mine de rien, l'attaque fait les actions qu'il faut. Et Bryce Young avait une occasion, mais la défense des Buccaneers était privée de pas mal de titulaires en plus. Hein, donc qu'est-ce qu'il a manqué à Bryce Young sur ce coup-là? Il est à 15 sur 31, 178 yards, d'une interception. Raphaël.
Ah, il lui a manqué sur l'interception lancée sur son dernier drive un peu d'intelligence de jeu. C'est une interception qui doit pas forcément faire. Voilà, il y a encore des, c'était un peu mieux que ces derniers, que d'autres matchs par le cette saison, mais c'est encore un peu juste. C'est de toute façon, c'est un peu juste de manière globale sur le casting qui l'entoure. Donc c'est un peu, voilà, c'est une saison d'apprentissage pour Bryce Young. Tout n'est pas acheté, mais il n'y a pas non plus grand chose sur lesquels s'extasier pour le moment.
Greg, ils avaient plutôt bien joué, il y avait du jeu au sol, hein. Chubb Hubbard est à plus de 100 yards, ils avaient plutôt essayé de construire intelligemment ce match, et il manque encore un peu de grinta à Bryce Young, quoi.
Bah, c'est ça, alors après c'est sûr qu'il y a 3 points d'écart, mais parce que Carolina se relance un petit peu sur la fin, parce qu'en soi, j'ai pas la sensation que les deux équipes étaient vraiment exactement au même niveau sur cette rencontre-là, l'attaque de Carolina était globalement bien maîtrisée. Il y a encore, malgré le changement de coaching staff et le récent renvoi de Frank Reich, il y a quand même beaucoup de pénalités un peu fâcheuses, notamment sur la ligne. Hein. Je pense à McCray, notamment le lineman intérieur, des problèmes de protection de balle. Enfin, des choses, encore une fois, où on se dit il y a des choses, en effet, où voilà, on essaie d'instaurer un jeu au sol un peu plus établi que ces dernières semaines. Certains diront que ce n'était pas difficile. Mais pour le reste, ça ne dégage pas une sérénité globale. Et quand tu as une ligne offensive de cette qualité, quand tu as un jeu aérien et un Bryce Young en constant doute avec des cibles peu reluisantes, bah malheureusement, ça n'aide pas à faire avancer les chaînes. Et la preuve, il n'y a eu quasiment que des punts pendant toute la première mi-temps. Il y a eu un seul field goal de mémoire en faveur de Carolina. Donc voilà, bon, je pense qu'on n'est plus assez après. Officiellement, ils sont éliminés des playoffs. Hein, l'année dernière, on avait un mini suspense après l'arrivée de Steve Wilkes et le niveau de la NFC Sud. Bon, bah, ça, on peut mettre ça de côté du côté de Carolina et préparer la saison prochaine. Mais pour être un peu plus sérieux, oui, il va quand même falloir essayer de vraiment optimiser au cours des prochaines semaines le rendement de Bryce Young. Parce que maintenant qu'on sait qu'on est capable potentiellement d'établir un jeu au sol un poil plus conquérant, ce serait bien que le quarterback puisse aussi se connecter de manière plus fréquente avec ses cibles.
Du côté des Buccaneers, il y a eu une bonne défense avec des bons jeunes, mine de rien. Yaya Diaby, linebacker, rookie, 6 plaquages, 1 sac. Khalid Jack en tête, 2 plaquages, 2 quarterback hits. Raphaël, c'est plutôt une équipe qui est bien coachée, mine de rien, finalement. Ils s'en sortent avec
ce qu'ils ont. Ah, toi aussi, tu fais la moue ?
Ouais, je sais pas. Je suis pas certain.
Je tendais une perche, j'essayais.
Je suis pas certain. Je suis même pas trop d'accord, je pense, qu'avec cet effectif-là. Alors oui, il y avait beaucoup de blessures sur ce match, en défense notamment. Mais pour moi, avec cet effectif-là, il devrait être plus en... Il devrait un peu plus titiller les Falcons sur la tête de division. Alors ils en sont pas loin, hein. Attention.
Oui, et puis ils doivent les rejouer à Atlanta
prochainement.
Ils en sont
pas très très loin.
Bah, là, ce week-end d'ailleurs.
Mais bon, moi je trouve que ça pourrait être un peu mieux en termes de coaching. Après, le plafond de cette équipe sera, c'est à la fois son plancher et son plafond, c'est Baker Mayfield de toute manière en attaque et voilà.
Et bien, on va terminer là-dessus. À moins que Grégory ait quelque chose à ajouter.
Non, pas grand-chose. En effet, il y a eu beaucoup d'investissements aussi en défense. Hein. Certes, il manquait des joueurs, mais ces dernières années, notamment par le biais de la draft, on a recruté pas mal de joueurs en relativement haut. Hein. Les Joe Tryon, Vita Vea, Logan Hall, Khalid Jackansé. Donc, c'est pas non plus une totale surprise que la défense puisse avoir voix au chapitre, même quand l'attaque tourne un peu moins bien. Maintenant, voilà, je rejoins un peu ce que dit Raph. C'est vrai que même avec Todd Bowles à sa tête, on a l'impression que la défense tourne un peu moins bien. Là, elle tombe sur un adversaire un peu plus abordable. Mais c'est vrai qu'on a vu, par exemple, un Devin White être beaucoup moins impliqué ces dernières semaines. Enfin, voilà, il y a un groupe, on sent encore une fois, qui est en fin de cycle. Et c'est un peu à l'image de Sam avec sa victoire. Là, non, mais là, ouais, pas sur ce match-là, en l'occurrence, parce qu'il
blessé,
oui, oui, j'ai bien dit sur ces dernières semaines. Mais voilà, c'est, malheureusement, on a l'impression que c'est un groupe qui arrive clairement sur une fin de chapitre.
Très bien, c'est comme ça que se termine l'épisode 687 du podcast Jeune Actu. On remercie tous ceux qui nous écoutent évidemment et évidemment aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Les calendriers sont arrivés, les calendriers 2024, ça avait cartonné la saison dernière. Calendrier A4 cartonné avec les petites, vous pouvez faire vos petits rappels au stylo, tout ça là-dessus. Enfin, c'est les petits calendriers qui servent bien, ça s'aimante sur un frigo, ça marche très bien. Les tipeurs justement, cette semaine, Dak Forbest, Benoît, Kevin, Juju, Sparrow 75LT, Tom, Alicia, Romanitou, Julien Brossillon, Arnaud, Bernard Chambaud. Merci à tous. Pour nous suivre, les tdactu.com, évidemment, vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux qui se trouvent sur le site et toute l'actualité qui est aussi dessus. Je crois que c'est Raoul et Victor demain pour la preview. Je vous remercie, Raphaël Masmejean, et je vous remercie, Grégory Richard.
Merci à vous, monsieur Alain Mattei.
Voilà, je me suis embrouillé dans le... Voilà, je voulais dire les deux d'un coup et puis j'en ai dit qu'un. Merci à tous. Tdactu.com pour toute l'actu de la NFL. À très bientôt. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en Tdactu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en Tdactu. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.